RMC.
Vu le fait que les joueurs soient les 6 meilleurs joueurs, enfin en tout cas les 3 meilleurs, enfin dans le groupe, les 3 joueurs importants soient partis.
Ils avaient besoin d'entendre une nouvelle. Ouais, mais bon, moi, je veux pas revenir sur ce qui s'est passé avant.
Jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot, Gilbert Brébois.
Bonsoir à tous, After est là jusqu'à minuit ce soir, comme tous les soirs en fait, hein. C'est pas vraiment une nouveauté, mais comme il est 21h, ça fait quand même une heure d'After en plus ce soir dans l'émission qui dit tout ce que le monde du football ne pense pas encore. Jonathan Bacardi, et là, Jonathan, bonsoir.
Salut tout le monde. Bon, je vois que t'as changé, hein.
Bah, suggestion des auditeurs, moi, je suis.
Ça, c'est une première, nickel.
Ça ouais. C'est une première.
Ah, bah,
ça te plaît?
Ouais, ça change.
Messieurs, là, François Manardo is back.
Salut les amis, bonsoir.
Il a sillonné l'Europe et le monde.
L'Europe, beaucoup. L'Albanie récemment.
Ah, l'Albanie.
Et le Bassan. Allez-y, c'est sympa. Il y a plein de cafés, il y a plein de bars, il y a plein de filles.
Et très bien, mais vous conseil voyage.
Il y a un stade sympa aussi, voilà.
C'est le conseil voyage de François, c'est parfait. L'Albanie, je sais pourquoi pas. Une destination qui se développe.
Et exactement, ouais, dans le sud, ça se développe.
Pas tout à fait naturel, enfin,
moi,
pour
le foot, hein. Je suis pas allé pour du tourisme. Mais, et puis c'est des gens.
Tu nous disais que t'avais été pour les femmes, justement.
Moi, j'étais faire Albanie-Moldavie, mon ami. Et Albanie-Moldavie, j'ai quelques vidéos. Alors, l'Albanie a gagné 2-0. Hein. C'était un match de qualification, puisque l'Albanie et la Moldavie sont le groupe de la France, comme chacun le sait. Mais c'était une ambiance particulière. Alors, il y a des immeubles autour du stade à Elbassan. Il y avait plein de gens à leur balcon en train de regarder le match. Je n'avais pas vu ça dans un.
Comme à Guingamp.
Comme à Nice aussi, à l'époque.
À l'époque, stade du Ray. Ouais.
Et voilà, un petit plongeon dans le passé.
Ouais, Guingamp, maintenant, ça n'existe plus parce qu'ils ont foutu une tribune.
Ça existait à Nice avant qu'ils déménagent à l'Alliance Riviera.
Anthony Quintela est là également. Alors, Anthony de retour, c'est notre vainqueur. Bonsoir. De l'After Academy. Ça va, mon gars?
Oui, ça va et toi? Bonsoir à tous.
Bonsoir, Anthony.
Écoute, ça va. Bah, t'es là, tu fais comme chez toi, comme d'habitude, bien sûr.
Bah, merci beaucoup.
T'es venu avec ton dictionnaire? Fois que je fais des fausses de français, je viens avec mon dictionnaire.
Déjà, et à chaque fois que je fais une émission avec Jonathan, je sais qu'il a tendance à sortir des mots que je
crois. Ah, joli!
Donc, on pourra vérifier tout de suite s'il passe des mots au hasard comme ça, si c'est des conneries ou si c'est.
Donc, il y a chambrage dans ton dictionnaire.
Jusqu'à présent. Hein, l'utilisation a été.
C'est quoi le mot qui est le mot, allez, un petit peu rare. Mais c'est celui où tu veux te la péter un peu.
Non, mais ça sort naturellement, je sais pas.
Ouais,
c'est comme ça sur le.
Que le pipeau,
il a fait des études très poussées.
C'est vrai que les dernières fois, il a pas trop servi et je l'ai payé 7€ la Fnac, donc je compte sur toi pour le rentabiliser, s'il te plaît.
Rentabiliser.
Merci bien.
Très bien, Anthony. Bon. Alors l'événement ce soir dans l'After, c'est la CAN avec les huitièmes de finale qui continuent. Tout à l'heure, on a eu un match à suspense et à rebondissement avec l'élimination du tenant du titre, le Cameroun, battu par le Nigeria 3-2. On va reparler de ce match dans quelques instants avec vous au 32-16, supporters camerounais notamment. Bon, je sais qu'il y a plus de Camerounais que de Nigériens qui nous écoutent, hein. Ce sont pas tout à fait étonnants.
La langue.
Voilà, hein. Donc supporter camerounais 32-16, bien sûr, si vous souhaitez pousser un coup de gueule ou pas d'ailleurs concernant votre équipe. D'ailleurs, en fin d'After tout à l'heure, on s'amusera à faire l'équipe type et l'équipe pipe de l'histoire du Cameroun.
Ah, j'avais l'équipe type, mais l'équipe pipe on n'en avait pas parlé.
L'équipe pipe, il y a quelques stars, hein, de Assoué Koto, des gars comme ça.
Et il y a surtout pas mal de ballons d'or africains
dans l'équipe type.
On va en mettre dans l'équipe type, ouais, je pense.
Oui, tout dans l'équipe type, le ballon d'or africain. Bon. Non, ce sera tout à l'heure. Là aussi, supporter camerounais, on vous attend au 32-16. Actuellement, l'Égypte joue contre l'Afrique du Sud. Et c'est Aurélien Tiercin qui suit ce match. Aurélien, bonsoir.
Bonsoir, messieurs. 3 minutes 40 secondes de jeu. Le match qui est parti sur un très bon rythme. 0-0 devant 74 000 spectateurs, évidemment, à stade international du Caire. Plein à craquer. Mohamed Salah, et là, la frappe, la première de Mohamed Salah, la demi-volée du pied gauche qui passe juste à gauche des cages du portier sud-africain. La frappe qui a été contrée, ce sera un premier corner pour l'Égypte. 0-0 après moins de 4 minutes de jeu, un match qui part sur de très bonnes bases.
Tout à l'heure, on reviendra te voir, on parlera plus en détail de ce match, bien sûr. Également au programme dans l'After, jusqu'à minuit, l'actu mercato du jour. On va notamment parler de Griezmann, qui part au bras de fer avec l'Atlético. Il ne sera pas à la reprise de l'entraînement demain, tous les détails à venir. On fera un petit dossier spécial Griezmann à 22h, hein, tout à l'heure. On parlera également de la situation actuelle de l'OM. Jonathan veut en parler. On parlera de la Coupe du Monde féminine, et de son arbitrage. François veut en parler. D'ailleurs, match pour la troisième place tout à l'heure. La Suède a battu l'Angleterre 2-1 dans ce match pour la troisième place.
La Suède finit troisième.
C'est vrai. Bon, on s'en fout un peu de la troisième place, mais le match existe
ouais,
quand même.
Ouais, mais pour elle, ça a compté, quoi.
pour pas que tu rentres complètement bredouille à la maison et puis pas finir quatrième, c'est parce que c'est le pire.
Également au programme de l'after, la Martinique. Eh oui, la Martinique était à la Gold Cup. Finale de la Gold Cup dans la nuit de dimanche à lundi, Mexique-États-Unis. Tout à l'heure, Frédéric Piquion sera avec nous, et manager bien sûr des Martiniquais et habitué d'RMC Sport. Il sera là dans quelques minutes. Et puis, à 23h, restez bien avec nous parce qu'on plongera dans l'histoire des supporters et les ultras. Vous allez voir qu'au début du 20e siècle, même à la fin du 19e, il y avait déjà des supporters incroyables dans les stades.
Eh oui, extraordinaire.
Un bouquin très intéressant qui est sorti là, coordonné par Philippe Tétard, qui sera avec nous. Le livre consacré aux supporters en France de la belle époque aux années 30.
Voilà. C'est génial.
Et ouais. D'ailleurs, il y a tout un chapitre sur les supporters de Nice.
Le GC Nice, ouais, j'ai vu ça, mais pour rendre à Tétard ce qu'il a développé dans son livre et ce qui lui appartient du coup, c'est surtout dans le nord de la France que les premières associations ou regroupements de supporters s'organisent. Alors, bon, tu parles de Nice, mais on reste quand même sur une zone entre Lille et peut-être le sud de la Picardie et un petit peu, je crois qu'on va jusqu'en Bretagne. Mais en tout cas, on est sur le nord de la France avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est assez surprenant.
32-16 pour tous ces sujets. On vous attend, c'est le numéro magique de l'After. Le hashtag RMC Live sur Twitter et bien sûr Direct Studio sur l'appli RMC Sport. Vous la téléchargez, vous pouvez nous envoyer vos messages avec la petite radio en haut à droite, vous appuyez dessus et hop, vous envoyez votre message. On a également de la Copa América, Jonathan. Alors là aussi, oui. C'est le match sur la troisième place.
C'est le match sur la troisième place, alors on s'en fout ou on en
Oui, c'est la soirée troisième place.
Il faut dire qu'on s'en
sauf
fout.
Sauf à la CAN.
Très franchement.
Argentine-Chili. Enfin, on s'en fout.
Les Argentins s'en foutent.
On s'en fout, sauf qu'ils ont mis l'équipe type. Les deux ont mis l'équipe type.
Ils s'en foutent pas, pourquoi? Parce que c'est simplement une revanche par rapport aux deux finales perdues de Copa América contre le Chili pour l'Argentine. On rappelle en 2015 et 2016, l'Argentine avait perdu au tir au but face aux Chiliens. Il y a quelques petits contentieux à régler et c'est un match où qui va avoir quelques petites attractions, notamment le fait que Dybala est enfin titulaire du fait de la suspension de Lautaro Martinez. Lo Celso revient dans le 11 parce qu'Acuña Parel est suspendu. Donc c'est un match qui compte pour les Argentins, mais très franchement, après ce bilan de Copa América minable, ça sauvera rien du tout et il y a beaucoup de choses à reconstruire.
Bon, Messi, il aurait pu se faire porter pâle, par exemple, tu vois.
Je pense qu'il est ultra remonté par rapport à ce qui s'est passé contre le Brésil. Écoute, il le vit comme une injustice, à mon avis, il n'a pas revu le match, mais si ça peut lui permettre de continuer l'année prochaine, très bien.
Tu vois, dans les matchs de 3ème place, c'est vrai, ils sont pas forcément intéressants. Des fois, on a des beaux matchs quand même, mais après, dans l'intérêt, c'est relatif.
Le but le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde,
Akanchukwu.
Turquie. Match par 3ème place. Turquie-Corée.
Mais je serais curieux de voir l'arbitrage de ce match de la 3ème place pour les Argentins.
Ouais.
A vu la pression qu'ils ont foutue depuis 3 jours là.
T'as vu qui l'a mise la pression? C'est le petit Argentin là.
Eh oui.
Et lui quand il met la pression, il sait la mettre.
Oui, c'est vrai que si t'es chilien là, tu te dis attends, ils sont gentils les Argentins.
Je veux voir si ça va dans un sens ou dans l'autre. Ou peut-être est-ce que ça restera un autre. Tiens, il était pas mal du tout d'ailleurs l'arbitre qui a fait Nigeria-Cameroun tout à l'heure. J'ai bien aimé.
Pardon?
L'arbitre de Nigeria-Cameroun, j'ai bien aimé. Il était très volubile. Volubile, tu veux regarder dans le direct? Il était très démonstratif. Il a bien arbitré le match, a priori. Mais
il
n'y
a pas eu d'erreur. Il y a eu 2-3 situations un peu litigieuses qui étaient correctes.
Il m'a rappelé. Alors là, je vais jouer. Mais bon, Gilbert est la même génération que moi. Il m'a un peu rappelé Monsieur Wurtz.
Ah oui, carrément.
Ouais.
Très bien.
Ouais, alors, vous venez de Monsieur Wurtz?
Ouais,
quand même. Je sais pas, tous les deux, si, vous étiez pas là.
Si. Quand même, si, je pense. C'est quelle année aussi?
Quelle est la qualité? La qualité
termine dans les années 80.
Quelle est la qualité principale de Robert Wurtz?
Égoïste, mais ça n'a rien à voir avec le ski.
Vas-y, Jonathan. Moi, je la connais, je vais répondre.
Non, vas-y.
Jonathan non plus?
Non, vas-y.
Non.
Alsacien, exactement.
Ah, d'accord.
Bah oui,
mais Wurtz, les gars! Wurtz!
C'est la casse, un bouffeur de carton seul, ça va.
Wurtz! Lui, c'est un vrai.
Autant Bribois, bon, tu peux hésiter, mais Wurtz!
Eh oui.
Non mais c'était quoi? C'était les 80 que même.
Ouais, il arrête dans les années 80, mais j'étais un arbitre international dans les années 70 et 80.
Allez, à mon époque, celle de François, il y avait Monsieur Wurtz et Monsieur Bonichon.
Ah, celui-là je le connais
très
pas.
B-O-2-L-I-C-H-O-N.
Très bien.
Tu sais qu'il arbitre, il arbitre un match de Coupe du Monde ou alors il a.
Sa femme devait être ravie de porter son nom. Madame Bonichon.
Wurtz, il arbitre un match au Brésil. Au Maracana, alors évidemment il n'y avait pas d'équipe française, mais il arbitre un match là-bas et il fait un amorti de la poitrine et il enchaîne avec un contrôle comme ça du ballon pour arrêter, tu vois, il siffle une faute quoi. Et le ballon lui arrive dessus, il fait amorti de la poitrine, contrôle. Et là tout le stade au Maracana, ils sont tous levés.
Aujourd'hui,
il
n'y aura pas des arbitres
faire ça aujourd'hui, non.
Ouais, aujourd'hui,
les arbitres ils font plus ça. Je sais même pas s'ils savent le faire.
Comment il s'appelait? Chaperon, oui.
Chaperon,
bah ouais, Chaperon.
Le low kick magnifique, là.
Low kick de fin de carrière, en plus.
C'est vrai. L'autre match en cours, donc, c'est Égypte-Afrique du Sud. Faut qu'on en parle un peu plus dans le détail, parce que hier, le Sénégal s'est qualifié. Elle a des favoris. Le Cameroun, tenant du titre, éliminé il y a quelques minutes, donc. Et là, l'Égypte, qui est le favori numéro 1 de cette Coupe d'Afrique, est sur le terrain. Et c'est toujours une ambiance absolument incroyable, chaotique, folle, lorsque l'Égypte joue, Aurélien. Pour l'instant 0-0 et l'ambiance est là.
Absolument, 74 000 supporters dans le stade international.
Mais moi, c'est les motivants là. Ils font quoi là, les Égyptiens là, Aurélien?
Ben, ils sont plutôt pas mal, les Égyptiens, depuis le début de cette partie. Il y a notamment une belle occasion de Mohamed Salah. Et là, le tacle touché effectivement de Tarek Ahmed sur Lebo Motiba, qui est un des deux seuls Sud-Africains qu'on connaît encore un petit peu en France. Il y a plus vraiment, il y a plus du tout de stars dans le football sud-africain. Il y a Lebo Motiba, le Strasbourgeois, que tu connais bien, Gilbert, évidemment. Et il y a aussi l'Amiénois Zungu au milieu de terrain. Et tout à l'heure, Mohamed Salah notamment a vu sa demi-volée passer juste à gauche des cages de Raven Williams, qui est le gardien sud-africain. 10 minutes 40 secondes de jeu, 0-0, une grosse ambiance, évidemment la plus grosse ambiance de cette CAN, 74 000 supporters dans ce grand stade international du Caire. Tout le monde espère évidemment une victoire de l'Egypte qui a accueilli 4 fois la CAN auparavant, 3 fois sur 4 ils l'ont gagné cette CAN. Donc effectivement l'Egypte qui se doit de par son histoire d'aller beaucoup plus loin que ses 8e de finale dans cette compétition. Et pour l'instant ça démarre plutôt pas mal, mais pas d'énormes occasions à part la demi-volée de Mohamed Salah, le dieu égyptien, qui est là, qui est bien présent malgré le coup de froid cette semaine. Il avait manqué une séance d'entraînement, mais il est bien titulaire. Pardon, 0-0 après 11 minutes et 20 secondes de jeu.
Alors, il fait à peu près ce qu'il veut, hein, Salah. Moi, j'étais au dernier match contre l'Ouganda. Donc, pendant que ses coéquipiers s'est chauffé, lui, il a fait le tour des tribunes pour chauffer l'ambiance un peu partout.
Tu sais qu'il a obtenu 5% virtuellement des voix aux dernières élections présidentielles, Mohamed Salah? Ah ouais. T'as vu ça?
Sans s'être présenté.
C'est-à-dire qu'il y a 1 million de personnes qui ont voté, qui ont déposé dans les urnes un bulletin Mohamed Salah. Ce qui représente 5%, ce qui représente 5%.
Ouais, exactement.
C'est
un délire comme ça.
Non, c'est pas un délire. C'est que Mohamed Salah, en fait, est devenu un petit peu la figure de proue de l'opposition au pouvoir militaire égyptien. Et donc, les gens, c'est une vraie rockstar là-bas. C'est devenu un vrai symbole.
Il paraît que Mido, lui, a 8 voix. Lui et sa famille.
Bravo. Magnifique.
Tu te souviens de Mido?
Bien sûr, je m'en souviens. Il est arrivé, tout le monde était en disant c'est une superstar, machin, la Roma. Il avait un boulard. Et puis au
complètement
final.
Complètement disparu, circulation.
On attendait plus que Drogba. Et au final, c'est Drogba qui a porté l'équipe cette saison-là.
Un boulard et un bidon, peut-être.
Les deux?
Un
les
petit
deux,
côté les deux, les deux. Mundia, un peu Mido.
Ouais, c'est vrai.
C'est le sosie officiel, ouais. Qui a cassé.
L'histoire fantastique de Mido, c'est la voiture quand il va à l'aéroport.
Oui.
Ah, je veux bien que tu me la refasses, celle-là.
Mido, ils ont rendez-vous à l'aéroport pour partir pour un match.
Quand il est à Marseille.
Quand il est à Marseille. Et Mido, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe en rade avec sa voiture, je ne sais pas ce qu'il a comme problème. Bon, évidemment, c'était pas une Super 5, tu vois, c'était pas une Twingo. Sur l'autoroute entre Marseille et l'aéroport, il s'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence. Il fait il appelle quelqu'un, il y a quelqu'un qui l'arrête. Il dit je dois aller à l'aéroport là. Le mec, il a laissé la caisse sur la bande d'arrêt d'urgence, il est parti. Il est parti au match. Hop.
Mais, salut. Ouais. Pour ceux qui, si ça est arrivé, ont eu un volant entre les mains en Égypte et principalement au Caire, la conduite en Égypte, il faut le connaître une fois dans sa vie. Le rapport à la conduite, c'est particulier.
C'est vrai.
C'est spécial. Oui. C'est spécial.
Mais ils ont un problème, c'est que pour eux, la ligne blanche doit être au milieu de la voiture. Donc forcément, ça crée un certain décalage sur la route.
Oui. Si avec la ligne blanche.
Bon bref, je regarde juste que Mido, bon évidemment il a arrêté sa carrière, notre ami il a 36 ans aujourd'hui, il a terminé au Zamalek, qui était son premier club.
Non mais écoute, quand il arrive à l'Olympique de Marseille, il est suivi d'une certaine réputation, parce qu'il vient de l'Ajax, où un certain Ibrahimovic a rapidement fait de l'ombre à l'Égyptien, mais oui c'est un... Et puis quand il arrive à Marseille, c'est Drogba là en revanche qui lui fait beaucoup de
derrière. Alors, Drogba devait être la doublure de Mido.
Derrière l'OM, il joue quand même 2 ans à Tottenham, le gars.
Et il a fait la Roma aussi. Ah, il part de Marseille pour aller à la Roma.
Voilà, et après il va à Tottenham. 70 matchs avec Tottenham.
70, tu dis. Ah, tu vois, j'allais dire après Marseille.
Et combien de buts?
19 buts selon
c'était pas, tu sais, c'était pas forcément un buteur en fait. C'était plus un attaquant remiseur. Voilà.
Bon, bref, il restera pas dans l'histoire de l'OM.
Ah non, c'est sûr. Non, c'est sûr.
Équipe pipe.
Non, quand même pas. Il y a le Condor Mendoza, ce genre de joueur-là.
Samassa,
le target man, comme Gareth l'avait présenté. On a recruté un target man. Écoute.
Bon, toujours 0-0 Aurélien.
Absolument, 0-0 après 14 minutes et 20 secondes. Et les Sud-Africains qui pour l'instant sont pas ridicules, loin de là, parce qu'ils ont simplement gagné un match contre la Namibie au premier tour. Ils ont perdu deux fois contre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Et il y a un joueur intéressant aussi côté sud-africain, Persito, qui est prêté par le club anglais de Brighton à l'Union Saint-Gilloise en D2 belge. Et lui, il a très envie d'aller très loin dans la compétition pour avoir son permis de travail. La belle frappe justement de Persito, arrêté par El Shenawy, le gardien égyptien. Persito qui doit aller au moins jusqu'en finale pour espérer avoir un permis de travail et enfin jouer en Angleterre la saison prochaine.
Quoi ? Attends, c'est quoi cette histoire ?
Alors, parce qu'en Angleterre, il y a une nouvelle réglementation pour les joueurs extra-européens, avoir un minimum de matchs joués en sélection.
Donc d'habitude, il suffisait d'être international, en fait.
Voilà, mais là, il doit jouer un match minimum avec l'Afrique du Sud, et pour avoir ce nombre de matchs minimum, il doit aller au moins en finale avec l'Afrique du Sud pour avoir enfin son contrat de travail.
Mais ça va être compliqué, quand même.
Ah, ça va être compliqué, effectivement. Mais c'est lui le plus dangereux depuis le début du match. Il a peut-être cette motivation supplémentaire.
Ça fait plaisir de voir un match de la CAN avec un stade plein quand même, par contre, hein, parce que les autres matchs c'est
oui.
déprimant. C'est
mais déprimant. Très bonne explication de Gilbert Rioua au début de cette émission, puisqu'on a tous remarqué que beaucoup de stades sont vides, et c'est pas pour c'est pas à cause de la billetterie apparemment.
Bah oui, non, mais en fait alors je réexplique, je l'ai déjà fait, mais qu'est-ce qui se passe?
Ah, sur du score de l'Argentine par Kun Agüero contre le Chili.
Ah, pour le match pour la troisième place, ouais, à la Copa América. Ouais. 1-0 pour les Argentins face aux Chiliens. Oui, c'est-à-dire qu'il y a de telles craintes liées à la sécurité en Égypte que les autorités égyptiennes ne veulent pas ouvrir les portes du stade pour laisser rentrer les gens, éventuellement une fois que le match a démarré, pour remplir les tribunes. Ce d'accord. qui se fait parfois de façon un peu discrète mais efficace sur certaines CAN.
Et puis...
Donc, du coup, finalement, ça vient parce qu'on veut vraiment contrôler qui rentre dans le stade. Et comme les Égyptiens, ça reste quand même un pays pauvre, ils n'ont pas forcément l'argent pour se payer les billets. Voilà.
Il y a pas que ça, il y a aussi le fait que les supporters de football en Égypte sont les opposants principaux au pouvoir en place, et que les matchs de foot pendant 6 mois entre 2017 et 2018, les supporters étaient interdits au stade.
Oui,
les groupes de supporters étaient interdits. Et il y a toujours une sorte de défiance vis-à-vis entre les supporters égyptiens et le pouvoir actuel, qui fait que il y a eu des négociations avant le début de la compétition. Il y a eu des pourparlers avec la fédération égyptienne notamment, mais le pouvoir ne veut pas céder sur ce point-là.
Il y a cet aspect, mais Jonathan, il y a autre chose à ajouter aussi, c'est que le football égyptien et ses supporters ont payé un très lourd tribut par rapport à leur débordement. C'est-à-dire que les incidents de Port Saïd,
70 morts.
Je crois que c'est 2012, et il y a une suspension de 2 ans sur le foot égyptien. Enfin, il y a des matchs.
Oui, le championnat s'est joué à guichet fermé.
C'est guichet fermé. Ouais. Voilà, c'est le meilleur. Il y a eu 74 suspendu. Morts et de tête.
Oui,
250 blessés.
Mais jamais vraiment élucidé ce qui s'est passé.
En fait, ce qui s'est passé, faut être clair.
En gros, c'était un traquenard pour les supporters d'Al-Ahly qui étaient
les ultras Green Angel du club de Port Saïd. En fait, ont été les milices du pouvoir en place, ont laissé ces ultras-là tabasser les ultras d'Al-Ahly en représailles par rapport à ce qui est aux événements du printemps arabe 2011. Police. C'est l'aide de la police, parce que historiquement les ultras d'Al-Ahly sont les opposants principaux à la police et aux forces armées, et comme à ce moment-là c'était au pouvoir l'armée qui était au pouvoir de l'Égypte, il y a eu une espèce de vendetta, il faut le dire comme il est.
Jonathan McCarty, messieurs, l'homme spécialiste du foot sud-américain et égyptien. Dans quelques instants, on est de retour, 0-0 entre l'Égypte et l'Afrique du Sud après 17 minutes. Le Cameroun au programme. Supporters camerounais, ne vous planquez pas. Appelez-nous au 32-16 tout de suite.
RMC, l'Afterfoot, Gilbert Bribois.
Avec François Bernardo, avec Jonathan McCarty, avec Anthony Quintela, notre vainqueur de l'After Academy, qui n'a pas encore utilisé son dictionnaire pour comprendre ce que veut dire Jonathan McCarty.
Patience là, je peux te dire, je lui ai mis une pression.
Mais tu t'en es jamais sérieux, mon pote, tu l'amènes à chaque fois. Mais
bah la CAN, Égypte-Afrique du Sud, Aurélien.
0-0 après 20 secondes et 30 secondes de jeu devant 74 000 supporters, évidemment tous derrière les pharaons, toutes les petites lumières des téléphones portables sont de sortie. C'est assez joli dans ce stade international du Caire, mais là ça va être chaud pour les supporters égyptiens. Un bon coup franc pour l'Afrique du Sud juste à l'entrée de la surface de réparation. Mokodjo notamment a été touché à l'entrée par les défenseurs égyptiens. La faute est pas forcément énorme, et monsieur Otogo, le Gabonais comme son nom ne l'indique pas, a sifflé coup franc pour les Sud-Africains. Il y a Lebo Motiba notamment, le Strasbourgeois autour du ballon, mais là qui laisse ses coéquipiers autour. Il y a notamment donc Percy Tau, le numéro 19, joueur qui évolue en D2 belge, qui a fait une énorme saison, 11 buts, 12 passes décisives, qui pourrait retourner en Angleterre à Brighton. C'est peut-être lui et son pied gauche, ou alors Lorch, le numéro 23, qui est droitier de son côté, mais ça devrait bien être Percy Tau et son pied gauche. 25 mètres pile dans l'axe des cages de El Shenawy, le gardien égyptien. Grosse occasion pour l'Afrique du Sud après 21 minutes et 30 secondes de jeu, toujours 0-0. C'est parti avec le pied gauche, c'est bien parti dans la lucarne. Parade, main opposée, superbe d'El Shenawy, le gardien égyptien. Corner donc c'était pour l'Afrique du Sud, de la droite vers la gauche, 0-0 après 21 minutes et 30 secondes.
Ah ouais, super bien tiré.
Ouais, c'était cadré, ouais.
Et donc toujours 0-0. Pardon ?
Pour l'instant, l'Égypte a du mal. Écoute,
écoute, l'Ouganda, le dernier match, c'est pareil. Ils avaient mis 25 minutes à se mettre vraiment dans le match. Au moment où Salah a commencé à s'énerver, en fait.
Mais le problème, c'est que le plan de jeu de l'Égypte, on a du mal à le deviner. Écoute, depuis le début de la compétition, ils ont été assez poussifs.
Ouais, le plan de jeu, c'est donne le ballon à Salah, ouais, et il se débrouille.
Alors qu'au milieu de terrain, que ce soit Ahmed ou El Neni, c'est des joueurs qui ont quand même un petit peu de ballon.
El Neni, moi, il me déçoit.
Plus de responsabilité.
Le début de la CAN.
Bah, il est absent. Il est absent. Alors, il est
comme Trezeguet d'ailleurs. C'est bof.
C'est le problème de cette équipe-là, c'est que pour l'instant, Salah doit tout faire, alors que c'est une équipe qui a beaucoup de qualité.
Allez, on va parler du Cameroun maintenant, parce que, alors que là, on a le corner le plus mal tiré de l'histoire de la Coupe d'Afrique. Directement, deuxième poteau, quasiment en touche, bref. 0-0 entre l'Égypte et l'Afrique du Sud. Le Cameroun éliminé tout à l'heure, tenant du titre, Parfait est avec nous, il est supporter camerounais. Salut Parfait.
Salut les gars.
Salut Parfait.
Est-ce que
Salut
tu parfait. T'y attendais, Parfait, alors que le Nigeria, très franchement, n'est pas impressionné depuis le début de la compète, hein?
Bah, selon mon complice dit, Gilbert, j'en ai parlé récemment avec dans l'after avec Daniel et puis Pierre Ducrot. Ouais. J'avais appelé concernant, mes propos étaient les suivants, c'était simplement que je trouvais que le niveau technique de la CAN, vraiment pas, quand je fais le balayage, que je prends toutes les équipes, c'était très très faible. Les équipes, elles ont du mal à mettre le ballon au sol, de jouer, proposer quelque chose de cohérent avec un projet de jeu. Là, on prend un peu de risque dans le football. Et je ne retrouve pas du tout. Du coup, ça ressemble pas à grand chose. Tout ce qu'on peut retrouver dans cette compétition, c'est le domaine athlétique, là où les garçons, c'est ce qui prime. Et puis, c'est celui qui mettra plus de savate à l'autre qui passera.
Parfait.
Oui.
Moi, ce qui m'a frappé dans ce match-là, et plus particulièrement du côté camerounais, c'est l'absence de ligne et de fil conducteur tactique. C'est une équipe qui est totalement.
Comment ? Impressionnant. C'est flagrant, mais c'est impressionnant.
C'est une équipe qui est totalement désorganisée. T'as un milieu de terrain avec l'ami Georges Mandjak et Malon qui, voilà, très franchement, c'est pas les techniciens de l'année. Les sorties de balle.
Alors, il y avait une surprise quand même, c'est que Zambo Anguissa était pas titulaire, alors que c'était quand même un peu l'homme de base depuis le début de la CAN.
C'est leur numéro,
il a changé tout le temps. Personne n'a compris pourquoi il n'était pas titulaire.
Il a changé tout le temps.
Alors Gilbert, on va bien se rendre compte, on parle bien de Zambo Anguissa.
Oui,
on se rappelle bien qui c'est qui est Zambo Anguissa. Vous vous rendez compte? On en vient à dire que c'est Zambo, l'absence des Zambo Anguissa qui fait en sorte que
mais
le Cameroun.
Mais tu te rends compte que André-Franck Zambo Anguissa joue quasiment numéro 10 quand il joue en sélection. On l'a bien et connu, c'est un garçon qui a
un parfait. Je vais plus loin que toi. Tes hommes de base, c'est Zambo Anguissa, comme tu dis, on sait qui c'est. Choupo-Moting, capitaine. On sait qui c'est.
Bahoken, allez, désinglé, il est plus à Strasbourg.
Non, mais non, Bahoken, il fait une bonne saison à Kangé.
Il a été très bon. Il a été très bon.
Il a été bon, ouais. Il a été très bon.
C'est alors, le seul qui a été bon. Moi... Et attends, juste parfait. Tu peux nous dire un mot de ta charnière que j'ai trouvé vraiment très approximatif.
Pourtant, Gadeux, il est pas mal en général, mais bon.
En général, il propose quelque chose qui est un peu bien meilleur que ce qu'il propose depuis le début du tournoi. Mais là, aujourd'hui, je vous avoue, les garçons, j'étais au travail, j'étais en coup d'œil de temps en temps. Mais c'est pas du football, c'est que de la baston.
Parce que Yaya Banana, là, le dénommé Yaya Banana derrière, très franchement, je l'ai vu faire 2-3 relances. C'était vraiment cataclysmique.
Dites-moi, les garçons,
un certain standing à avoir.
Laissons la parole à Parfait.
Oui, parfait.
Excusez-moi de vous couper, les gars. Dites-moi si je me trompe. À quel moment vous voyez dans cette équipe, ou bien dans toutes les équipes, on va prendre toutes les équipes du tournoi, quand est-ce que un garçon prend le ballon et qu'il est calme avec pour pouvoir trouver une transition à côté pour jouer? Quand est-ce que c'est possible? Moi, je ne le vois pas, moi. À chaque fois qu'on a le ballon, ils sont toujours affolés avec le ballon. Moi, je joue au football en amateur, mais je comprends pas. Il n'y a rien de professionnel là-dedans. Je ne comprends pas. C'est peut-être pas du football pour
parfait,
moi.
Parfait, peut-être pas jusqu'à dire que tous les joueurs qui ont le ballon, ils leur brûlent les pieds, mais... Je reviens à ce que tu disais au départ. On est passé quand même pour la première fois de l'histoire à une CAN à 24. Ces tournois qui passent à 24 équipes, En Afrique, il y a un peu plus de 50 fédérations. Donc, quand tu passes à 24, tu te ramasses forcément des seconds, voire troisième couteau de la zone Afrique. Et oui. 10 mois. Ouais,
attends, excuse-moi, il y a aussi Madagascar, c'est un cinquième couteau, ils ont fait un super truc.
Et donc, c'est une surprise. On a le droit d'avoir une surprise. Ouais. Mais là, on parle du tournoi en général. Parfait, depuis quand tu as vu une CAN en ballante?
Comment, j'ai pas entendu.
Depuis quand j'ai eu quoi? Est-ce que tu as vu une CAN, une Coupe d'Afrique des Nations, en ballante au niveau du jeu, au niveau du football, de la qualité proposée? Et je parle pas du mois de juin, du mois de janvier.
Ne serait-ce que celle d'il y a deux ans, j'avais trouvé que le niveau de jeu était plutôt correct, à l'image de la finale que j'avais trouvé pas mal à suivre contre
le
Cameroun.
Non, mais bon, final. Il y avait... Si tu regardes le tournoi en général.
Alors, réponse de parfait, vas-y.
Alors, on va pas se mentir. Hein. Généralement, alors moi, là où je comprends pas, c'est. On a en général la moitié des garçons qui évoluent souvent en Europe. Et là où mon incompréhension elle est quasi totale, c'est quand tous ces garçons se retrouvent ensemble pour faire un collectif, pour pouvoir proposer, pour faire simplement pratiquer leur sport qu'on appelle le football. Mais ça manque de lien en fait, comme disait Jonathan tout à l'heure.
Mais c'est parce que c'est des sélections.
Parfait, à ce moment-là, est-ce qu'il ne faut pas regarder des responsabilités du côté du banc de touche et de ton coach?
Ah bah là, oui, non, Sidorf ne maîtrise rien. Oui, c'est un nom, attends, c'est un nom, c'est peut-être une légende du football. Mais le problème de Sidorf,
c'est que... Pause, les gars. Eh oui, pause. Soit. Pause parce qu'on revient. Voilà, parce qu'on a des obligations. Il est 21h27.
Faut bien manger.
Parfait, merci en tout cas. Salut à toi.
Ciao, parfait.
Merci, parfait.
Salut, à bientôt.
Salut, parfait.
Dans quelques instants, Michael sera avec nous. Toujours 0-0 entre l'Égypte et l'Afrique du Sud. On continue le débat sur le Cameroun. Et on va parler de la Martinique. Voilà, after international ce soir avant de reparler de Griezmann et de l'OM à 22h. A tout de suite.
RMC. L'After Foot. Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, l'after est là, il est 21h30, on a la CAN toujours au programme avec Jonathan Macardy, avec François Manardeau, avec Anthony Quintela qui est là, et avec Frédéric Piquion, qui n'a rien à voir avec la CAN, mais qui est là parce qu'on va parler de la Gold Cup et de la Martinique dans quelques instants. Salut Fred.
Salut, bonsoir à tous.
Oui, tu es manager de l'équipe de Martinique.
Ouais, qui team, revient manager, de
la... qui... team manager, ça fait plus classe. Ça fait un peu carry, tout ça, c'est bien. Donc, on va parler de la Gold Cup dans quelques instants. Mais d'abord, on va conclure sur la CAN. Un point d'abord sur Égypte, Afrique du Sud, Aurélien.
Ouais, la demi-heure de jeu, toujours 0-0. Et attention au trio offensif sud-africain Lorch Motibato qui fait souffrir la défense égyptienne. Attention à ne pas avoir une très grosse déconvenue pour les Pharaons. 0-0 après 30 minutes et 30 secondes.
C'est au milieu de terrain qui sont en train de prendre le dessus, l'Afrique du Sud. Ils récupèrent tous les ballons, ils sont trois, les Égyptiens sont juste deux. Salah et Trezeguet font pas les efforts pour apporter le surnombre à leur deux milieux de terrain.
Trezeguet, il a eu un face-à-face qu'il a raté il y a 5 minutes. Là.
Bon. Ouais, frappe trop molle qui vient échouer dans les gants du gardien sud-africain alors que Salah avait fait
Trezeguet, je précise
le bon
évidemment
décalage.
Que ça n'a rien à voir avec notre Trezeguet.
C'est un surnom qu'il a depuis voilà, toujours.
Parce qu'il a une ressemblance,
ouais.
Visiblement.
Oui, pas que physique. Moi, j'ai connu ce joueur qui avait participé avec son club d'Al Ahly à la Coupe du Monde des clubs en 2012. Il était tout jeune, il était remplaçant. Donc c'est surprenant de voir dans l'effectif égyptien un joueur qui répondait au nom de Trezeguet. Et il y a une petite ressemblance physique et il est attaquant de pointe. Il est grand, pas très costaud, voilà.
Il va pas très vite. Je sors à côté.
Il va pas très vite et il est surtout moins efficace.
Franchement, s'il marque autant de buts dans sa carrière,
il est surtout moins efficace.
Ça ira quoi.
Ah, là il le fait jouer sur un côté, donc c'est peut-être pour ça que.
Je le trouve un peu lent.
De toute façon, c'est ça là, hein, comme tu l'as dit.
Ah, oui. Tout bon, pour ça, concluons sur le Cameroun. Mickaël est avec nous au 32-16. Salut Mickaël.
Salut, ça va?
Ouais,
salut,
ça va. Je crois que t'es énervé après Choupo-Moting, non?
Ah, je suis vénère là, excuse-moi. Je suis énervé. Je suis énervé par rapport à tout. Par rapport à déjà, je l'ai développé. Comment ça se fait que c'est l'équipe championne d'Afrique de 2017, cette équipe-là qui a gagné la Coupe d'Afrique 2017? Et qu'elle vienne en 2019 outsider. Ça, déjà, de 1, faut qu'on m'explique.
Bah, elle a changé l'équipe déjà. Hein.
C'est pas les mêmes joueurs et c'est pas le même entraîneur.
C'est pas le même entraîneur, exactement. Mais je comprends pas ce truc-là. En Europe, ça existe pas, ça. En Coupe du Monde, ça existe pas.
Mais Michael, outsider, attends. Qu'est-ce que tu critiques? C'est pas un statut outsider. C'est une étiquette qu'on te donne. Après, c'est aux joueurs.
C'est pour te dire que c'est dans la moralité des gens. Comment se fait que cette équipe, elle est gagnante?
Enfin, la moralité, tu vas perdre du temps.
Michael, franchement, amuse-toi à comparer la feuille de match entre de la finale contre l'Egypte et la feuille de match du match du jour. Tu verras que d'une part, ton effectif a été vraiment beaucoup renouvelé. Et je pense que la vraie différence, c'est que avant, en 2017, tu avais un entraîneur qui connaissait très bien le football africain, Hervé Renard, qui maîtrise tous ses aspects.
Hugo Bros.
Hugo Bros. Hervé Renard.
Oui, c'est moi. Et là, tu as un entraîneur qui qui vient d'Europe, qui doit apprendre et qui, à mon avis, dont on voit ses mises en place, ses compositions d'équipe et ce qui se passe, qui a peut-être pris le truc un peu de haut, quoi.
Alors, il y a des gars qui veulent plus venir, hein. Aussi, qui étaient là en 2017, qui veulent plus venir. Bon. Et moi, d'ailleurs, Mukanjo, pourquoi il n'est pas là, Mukanjo? Ça, je ne sais pas pourquoi Mukanjo n'est plus là.
Mukanjo, il ne veut plus venir. Il y a qui? Nicolas Nkoulou, il ne veut plus venir. Pourtant, le mec, il fait une très bonne saison.
Il y a Matip aussi.
Mais ils veulent plus venir. Attends, ils ne veulent pas venir. Pourquoi? Problème de prime, problème avec Zidor, problème avec la fédération.
Fédération, François.
Voilà, déjà, c'est un problème avec la fédération. Et la fédération, il faut savoir que c'est Samuel Eto'o qui la gère aujourd'hui. C'est prouvé par A plus B, c'est Samuel Eto'o qui gère cette fédération.
Et comme par hasard, tous les joueurs qui ne veulent plus venir, c'est des joueurs qui ne s'entendaient pas avec Eto'o.
Excuse-moi de te couper. Tout ce que c'est Eto'o qui fait venir, Clarence Zidor, fait Patrick Kluivert, effectivement. Voilà. Je pense que c'est plus une étiquette marketing par rapport à ça. Mais nous, on fait des bosseurs. Les mecs, Clarence Seedorf et Patrick Hervet, ils n'étaient pas au Cameroun avant la CAN. Ils ont fait quoi? Ils ont dû faire franchement un mois ou deux maximum sur six mois avant précédent la CAN. C'est pas normal.
C'est ce qu'on avait identifié avant le début de la compétition, oui. Et c'est pas normal du tout. Et c'est pour ça que je te dis, ils ont pris le truc de haut, c'est tout. C'est un manque de respect par rapport au football camerounais.
Excuse-moi, je t'ai pas entendu.
J'ai dit, c'est ce qu'on avait dit avant le début de la compétition, et très franchement, ce genre d'attitude, il faut appeler un chat, c'est un manque de respect total pour le football camerounais.
On en a marre de football camerounais.
C'est un truc de mercenaires, quoi.
Ils ont 5 Coupes d'Afrique. J'en ai marre aussi, on gagne ces Coupes d'Afrique-là, dans le désordre, on bricole. Voilà, exactement, on bricole. C'est bon, ça saoule, c'est chiant.
Mais je comprends pas après qui t'es énervé en fait.
Et moi,
du coup,
pas,
les joueurs.
Le capitaine, c'est Choupo-Moti. Ça doit pas être le capitaine. Ça veut dire, en fait, vous mettez ce capitaine-là pour vous moquer des Camerounais. En fait, vous mettez ce capitaine pour vous moquer des Camerounais. Le mec, il a fait une bavure au PSG. Il n'a pas été capitaine. Il n'a pas apporté l'étendard avant cette Coupe d'Afrique. Je suis désolé. C'est pas possible. Il y a des mecs. T'as des mecs comme.
Ne serait-ce que Onana, le gardien, par exemple, pour être capitaine. Il fait une très bonne saison, lui, avec l'Ajax. C'est un type, il a du charisme.
Voilà, le mec, il a du charisme, parce que celui qui est formé, ça dépend. Franchement, moi, Onana, en même temps, c'est mon homonyme, mon famille, ça c'est clair. Mais en même temps, c'est dû de porter le brassard. Il n'y a pas de.
Mais sinon, l'élimination, elle t'emmerde, ou bien t'es que sur des choses qui sont liées un peu à la morale, lui, c'est le capitaine, mais.
Franchement,
ils font pas un match dégueulasse, les Camerounais, à part que défensivement,
des deux côtés, c'est.
Non, mais le match, les deux équipes ont pas fait un bon match, c'était bordélique, au possible.
C'est bordélique depuis le début de cette compétition, à part les Égyptiens.
Il y a des équipes qui ont montré quand même plus de maîtrise collective, par exemple le Maroc, même s'ils se sont fait éliminer.
Jonathan, Parakou.
Non, le Maroc, avant son élimination, c'était maîtrisé collectivement.
Attention, il y a peut-être une main. Il n'y a pas de VAR, je le rappelle.
Non.
Aurélien,
prochain.
Quand il y a VAR, il y a main tout le temps.
Michael, moi je te rejoins.
Non, égyptienne, ouais. Il a pas été sifflé.
Je te rejoins totalement. Je pense que le problème du football camerounais depuis la victoire, c'est que cette victoire, elle était un petit peu en trompe-l'œil. T'avais un entraîneur qui avait entraîné, pas en Afrique noire, mais qui avait entraîné sur le continent auparavant, qui a fait un travail qui était sérieux. Il était H24, si ce n'est, H24 au pays et à superviser des joueurs. Là, le problème, ce que je ne comprends pas, c'est ils ont voulu faire un coup en mettant deux noms, un binôme, une direction. Action sportive bicéphale avec deux noms connus sur la scène européenne, mais le problème c'est que le football africain a plein de paramètres différents à maîtriser et tu ne peux pas te permettre de faire le travail en dilettante.
Non mais Eto'o, s'il veut s'occuper de tout, qu'il soit sélectionneur alors dans ces cas-là.
J'ai cru que c'est Nasserak. Nasser Al-Khaifi est à côté du président nigérian. Je sais pas, c'est pas un jeu, on n'est pas au PMU ici, on n'est pas à l'hippodrome de Longchamp ou quoi que ce soit. C'est chiant ce truc-là. Et le truc c'est quoi? Le peuple camerounais aujourd'hui qui est en guerre, j'appelle ça une guerre, mais les gens ils peuvent se voler la patte, mais c'est une guerre qui se passe au Cameroun, ils ont besoin de ça. Les mecs, tout le monde a regardé le match au Cameroun aujourd'hui, j'ai appelé mes cousins et cousines, ils ont tous regardé le match, ils étaient tous derrière, on a soutenu, mais après maintenant, il y a la défaite, c'est pas la défaite qui me dérange. Et en plus, il y a aussi un dernier point, c'est ce fait de, j'en ai marre en Afrique qu'on calcule pas, comme en Europe. Je sais pas si vous avez compris.
Ah là, ça manquait de calcul total, les deux équipes. Hein.
J'en ai marre. Et même, regarde, par exemple, on est premier de Cameroun. Ils sont premiers, c'est-à-dire contre la Guinée-Bissau, ils gagnent leur premier match. Deuxième match, ils font match nul contre le Ghana. Ils sont premiers, ils sont quasiment assurés d'être premiers. Mais les mecs, ils vont faire match nul contre le Bénin. Tu vois, j'en ai marre qu'on calcule pas. Et bim, derrière, on tombe sur le Madagascar. On tombe sur le Nigeria. Tu vois.
Ouais, ça aurait pu être différent. Quand je vois la République.
Ouais. Michael, tu Michael, en tout cas, quand même.
Michael, je comprends ton énervement. Je te remercie. Le Cameroun, tenant du titre éliminé cet après-midi. Effectivement, je pense que tu sens que Kluivert et Seedorf là. pas de raison qu'il reste.
Et il a raison de le dire, hein. C'était,
enfin, ça va dégager.
Non
mais Eto'o, le football gaucher, il gère tout. Ben, va sur le banc, mon vieux.
Mais bien sûr que ça va dégager. Si c'est pas les trois quarts, la totalité des entraîneurs européens qui viennent entraîner une sélection africaine, c'est des mercenaires.
Oui.
C'est des mercenaires. Et puis des mercenaires, c'est pas forcément un gros mot, mais c'est des mercenaires, voilà.
Mais t'as des mercenaires qui font quand même bien le travail. Et juste en
dernier,
qui
ont fait là, un très là bon travail.
Tu le juges Hervé Renard comme un mercenaire, mais il a gagné deux fois la CAN avec deux sélections différentes. Et il habite dans le pays.
Exactement.
Oui.
Par rapport à l'énervement de Mickaël, pour conclure, il faut comprendre que c'est un pays qui est dans une situation géopolitique dramatique.
Il a raison.
Et très franchement, je pense qu'une bonne performance en CAN aurait fait du bien au peuple camerounais. Et c'est un peu con de voir ça, quoi. Parce que les joueurs, ils sont des joueurs de qualité. C'est pas juste Choupo-Moting, c'est pas juste les deux joueurs Mandjek, etc. Tu regardes les joueurs qui ont refusé de venir en sélection, t'avais de quoi faire une très belle équipe. Mais bon.
Bon, Fred, bouge pas. On va avoir 20 bonnes minutes ensemble, tranquillement, pour parler de la Martinique à la Gold Cup. C'est dans quelques instants. Toujours 0-0 entre l'Égypte et l'Afrique du Sud. 2-0 désormais en faveur de l'Argentine face au Chili, dans le match pour la 3e place pour la Copa América.
C'est les auto-tamponneuses encore.
Oui,
ça se bagarre. Gary Medel, il est chaud. Isla, il est chaud. Enfin, c'est n'importe quoi.
Allez, à tout de suite dans l'after pour parler de la Gold Cup et de la Martinique. Si vous êtes supporter martiniquais, c'est maintenant ou jamais. 32-16.
RMC, l'afterfoot. Gilbert Bribois.
21h41, l'after est là jusqu'à minuit. On suit les matchs en cours. Égypte, Afrique du Sud, toujours 0-0 à 4 minutes de la mi-temps. Argentine, Chili est en train de se transformer en combat de MMA. Toujours 2-0 pour les Argentins. C'est le match en 3e place. Donc il n'y a aucun enjeu, mais les mecs se mettent sur la tronche.
Ils s'aiment pas.
Ils s'aiment pas.
Et c'est depuis les deux finales. Et puis il y a pas mal d'entraînements.
Jonathan McCarthy, François Malardo, Anthony Quintela et Fred Piquion. Fred.
Oui.
Parlons de la Gold Cup. Tu es le team manager de la Martinique.
Bravo d'abord.
Alors. Bon, éliminé au premier tour, mais vous aviez un groupe franchement compliqué.
Oui,
donc avec le Canada et le Mexique, déjà, qui sont quand même deux grosses nations de la zone CONCACAF, mais aussi Cuba. Bon, vous avez battu Cuba assez tranquillement, je rappelle les résultats. Défaite initiale 4-0 contre la Martinique. Ensuite, victoire contre Cuba 3-0. Pardon, contre le Canada 4-0. Ensuite, victoire contre Cuba 3-0. Et défaite 3-2 contre le Mexique, qui est quand même le favori numéro 1.
Cette Gold Cup.
Les États-Unis. Exactement. Ouais. Alors, je rappelle juste, pour ceux qui disent, mais tiens, que fout la Martinique dans une compétition internationale, puisque c'est la France.
Ouais.
Mais la Ligue de Martinique est affiliée à la CONCACAF, donc la fédération...
2012.
Voilà. Mais pas la FIFA, contrairement par exemple à Tahiti ou la Nouvelle-Calédonie, qui participent au...
Ah, c'est ça.
Pas encore.
Bah on est...
C'est en cours, non?
Ouais, mais vous êtes un dôme.
Alors oui, c'est un tome,
oui, mais c'est on est en train quand même d'essayer de parler. Non, non, pas du tout.
Il faut négocier avec qui?
Il faut négocier avec Monsieur Le Graët. Hein.
C'est lui qui a
les cartes
en main. C'est lui qui peut donner l'autorisation à la Martinique d'être affilié à la FIFA.
D'être affilié à la FIFA. Ouais. Il y a un article de loi.
Je crois me souvenir qu'il a dit récemment que c'était hors de question.
Hein. Oui, moi aussi.
Alors, on peut te dire
que
c'est hors de question.
C'est réglé.
C'est hors de question.
C'est réglé.
Ça va, voilà, exactement.
On sait jamais.
Rappelle-nous la règle. Un joueur, je sais pas, je prends, imaginons Sylvain Wiltord. Il est martiniquais, Sylvain Wiltord.
Il est plus de la Guadeloupe quand même.
Non, Nico Anelka.
Bon, Nico Anelka,
ouais.
Je crois qu'il était martiniquais ou le tour de moi. Oui, pas moite. Bon, Anelka, ok.
Ouais.
Anelka martiniquais. Il a joué en équipe de France.
Ouais.
Est-ce qu'il pourrait jouer aujourd'hui en équipe de Martinique?
Non.
Si d'aventure vous vouliez le prendre?
Non, c'est terminé. C'est terminé.
À partir du moment où tu as joué en équipe de France.
C'est comme une sélection classique une fois que tu as joué avec un autre pays.
Non, même pas. C'est que c'est pas forcément. Parce que moi j'avais joué en équipe de France et j'ai participé à la Gold Cup simplement. C'était un match amical.
Ah.
J'ai joué en match. C'était un match amical.
T'as pas fait le Malouda?
Et il y a l'affaire Malouda, bien sûr. Si c'est un match officiel, tu peux pas.
D'accord.
Tu peux plus, sinon on en aurait pris.
Il y a
de quoi faire une superbe équipe.
Vas-y, sors-nous quelques noms là de Martiniquais qui ont joué en équipe de France.
Équipe,
et qui auraient pu jouer pour la Martinique.
Bah, Varane, aujourd'hui. Il y a Loïc Rémy. Il y a.
Anelka, donc.
Nico Anelka. Il y a qui encore?
Trésor et Titi, c'est Guadeloupe.
Il n'y a pas Christophe Val?
Titi.
Thierry,
non.
Thierry, il est Guadeloupe et Martinique.
Les amis.
Thierry Henry.
Juste, je vous coupe 30 secondes. Lionel Messi vient de se faire expulser, ainsi que Gary Medel. Les deux sont chauffés, c'était épique.
C'est bien Medel qui a chauffé Messi.
Rouge pour Messi.
Ouais. Les deux sont chauffés, c'était assez. Ouais. Je vous conseille de regarder ça. Mais bon, excuse-moi, Fred.
Ouais, pas de souci, mais pas de problème. Non, mais il y en a plein en fait des joueurs qui ont.
Alors, comment vous avez composé avec le sélectionneur? Je crois qu'il est avec nous d'ailleurs. Le sélectionneur Mario Boccali qui est là avec nous, sélectionneur de la Martinique. Bonsoir Mario.
Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde, tout le plateau.
Bonsoir, bon, on est ravis de parler de la Martinique. Vous savez que j'ai reçu les messages, on m'a dit « Ouais, personne n'en parle, il y en a marre ». Faux. Nous, on en parle déjà ce soir, mais on avait déjà parlé avec Fred. Et je crois d'ailleurs, Mario, que les médias métropolitains n'en ont pas trop parlé. Hein.
Ouais, c'est quand même dommage, compte tenu du fait qu'on a quand même des prestations assez correctes.
Bah oui.
Et en plus, je crois qu'il y a pas mal de joueurs qui jouent en Ligue 2 ou en Ligue 1 qui ont l'occasion de jouer avec la sélection de la Martinique. Donc, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de points de la Coupe Américaine et très peu de la Gold Cup. C'est quand même dommage.
Mario, comment est-ce que vous avez fait votre sélection? Déjà, est-ce que vous avez demandé l'avis de Fred? Et ensuite, est-ce
pas,
que
Gilbert, tu veux avec mon sélectionneur
pour rigoler? Et ensuite, est-ce que vous vous dites tiens, je privilégie les joueurs qui jouent en Martinique ou bien ça m'est complètement égal, c'est la qualité de foot qui compte avant tout? Comment vous avez fait?
Non, je crois que avec ça, il y a un gros travail de concertation avec Fred sur tout ce qui est joueurs professionnels. Mm-hmm. Bon, c'est vrai qu'on avait décidé sur un groupe de 23 qu'on aurait 7 à 8 programmes maximum. Donc je crois que ça, avec Fred, il y a un travail de collaboration pour qu'on puisse trouver les joueurs appropriés aussi au profil qu'on recherche et puis les joueurs dans l'état d'esprit. Et puis je crois qu'à part ces 7 ou 8 joueurs qui viennent, tous les autres sont des joueurs issus du championnat local de notre R1 local. Et je crois que ça fait un bon amalgame en sélection.
François Malard.
Ouais, j'ai une question, monsieur Bocali, puis j'en profite aussi, je la pose à Fred. Pourquoi ce plafond de 7-8 joueurs pro, indépendamment du fait d'être dans l'esprit de jouer pour la sélection martiniquaise, qui n'est pas une sélection officielle, mais pourquoi ce plafond? Pourquoi vous avez fixé ce chiffre?
Fred?
Je crois que ce n'est pas un plafond. On s'est toujours donné ça en sélection, pour que l'équipe ait une âme aussi, parce que faut pas se leurrer, on n'a pas le temps de travailler avec les joueurs professionnels qui arrivent. Ils sont pas toujours disponibles, parce que Fred l'expliquait et l'a déjà expliqué beaucoup de fois, parce qu'ils sont pas tout le temps libérés quand on souhaite. Donc je crois que c'est important quand même d'avoir ce socle-là pour avoir un état d'esprit. Ça, c'est la première chose. Et puis qu'on ait le temps de bosser ensemble. Et je crois que si on en a 22, on n'aura jamais le temps de travailler. Des fois, on aura peut-être 2 jours pour des matchs internationaux. Je crois que c'est pas possible. Donc à partir de là, on a par exemple des joueurs de Ligue 2, par exemple. Si on joue le mardi ici, il retourne le mercredi et il joue le vendredi en Ligue 2. Donc je crois qu'à partir de là,
c'est compliqué. Clubs, hein.
Donc on a cette base-là à aller chercher maintenant. Hein. On peut décider d'en avoir plus. Mais derrière, je pense qu'en termes de solidarité, d'esprit
de qualité,
ce sera un peu plus compliqué.
Et alors,
non, Fred peut donner son avis dessus.
Fred, ouais, tu veux rajouter quelque chose?
Ouais, je disais en termes de qualité aussi, parce que c'est vrai quand on a la base, ça sert à rien. On sait très bien que dans le football, il y a une base et il y a surtout des postes clés. Attaquant, bon milieu de terrain,
un bon défenseur.
Un bon gardien.
Et un bon gardien. Simplement, le gardien, là, on n'avait pas trouvé, parce qu'il n'y en avait pas qui jouait, en tout cas, qui était en mesure de jouer correctement. Mais sinon, on a eu, c'est quand même Sylvain Marvaux dans le milieu de terrain, numéro 6, Kevin Fortuné, Jean-Sylvain Babin qui joue en Espagne.
Et derrière, celui qui joue à Seattle.
Oui, Delem, ouais. Jordi Delem qui joue à Seattle. Donc ouais, on avait quand même une bonne base de pros,
ouais.
Et ils nous en ont manqué, bien sûr.
Et le niveau général du championnat en Martinique, c'est suffisant, Mario, pour avoir des bons joueurs?
Oui, je crois. Bon, alors le problème, c'est qu'on est plafonné à R1, mais je crois que nos meilleures équipes sont capables de jouer un bon niveau, si on les mettait peut-être en national avec la structure qu'il faut autour d'eux, hein. Ça c'est quand même...
Il y a un club martiniquais qui est allé loin en Coupe de France d'ailleurs cette année.
Oui, l'Aiglon qui a fait une bonne prestation contre Orléans. Et je crois qu'ils sont allés aux prolongations.
Tout à fait.
Voilà, c'est aussi les moyens. Le facteur limitant, c'est vraiment les moyens que les clubs ont pour bosser ici, quoi. Entre terrain, qualité des installations et derrière le fait que les joueurs travaillent la journée et l'après-midi s'entraînent et le soir s'entraînent. Donc voilà une réalité en fait du football martiniquais qui fait qu'à un moment donné, ça, on peut plafonner à un certain niveau, mais une fois qu'on les met dans des conditions qui sont les conditions du haut niveau, eh ben on trouve des joueurs qui se mettent au niveau.
Fred, juste un mot quand même sur les pros.
Ouais.
Quand vous prenez un pro,
ouais.
Il faut que ce soit lui qui vous dise, attendez, moi, je suis martiniquais, je serais fier de faire partie de l'équipe ou tout, parce que j'imagine qu'ils ne vont pas pour le pognon là.
Pas du tout.
Non, voilà, non mais faut le dire quoi.
On essaye de les mettre. on va dire dans de bonnes conditions quand même, au niveau du voyage, au niveau des assurances, au niveau du club, au niveau aussi médical, ce qui est très important. Est-ce que demande aussi
la Ligue, hein, qui paye, hein.
Et tout ça, c'est la Ligue qui prend en charge.
Mais
qui
que
prend...
la Ligue, je vais dire.
Oui, que la Ligue, oui.
Parce que vous n'avez pas droit aux aides FIFA. Et du coup, j'ai vu que vous aviez lancé une cagnotte pour financer votre participation à la compétition.
Oui, c'était surtout pour le stage, parce qu'on voulait faire quand même un stage de minimum 10 jours avant la compétition pour être bien. Et c'est vrai que cette cagnotte, elle nous a fait aussi du bien.
Tiens, sur Direct Studio, on me dit, mais pourquoi vous avez pas pris Alex Witzel? Il est martiniquais. Effectivement, ça aurait fait un beau joueur, mais bon.
Moi, j'ai une question aussi pour le coach et Fred par rapport aux perspectives à moyen terme. Sur quelle base vous pouvez travailler pour vous développer, pour franchir un palier? Et on en parlait pendant la coupure pub, Fred. Est-ce que quand on voit l'exemple de Curaçao, qui est, je pense, une île encore plus petite,
qui est en demi-finale de la Gold Cup,
la Martinique, première participation, qui est un vivier, je pense, moins important. Est-ce que c'est simplement parce que c'est une fédération reconnue
Parce que t'as droit aux aides FIFA, François. Ils ont été reconnus.
Oui, mais il y a un vivier. Et est-ce que c'est qu'une question d'aide?
Oui, je pense beaucoup. C'est une question d'aide. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le football martiniquais aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs de la Caraïbe. Il y a le club franciscain qui gagne tout, en vérité. Dans la Caraïbe, ils vont battre des équipes au Mexique, ils vont battre des équipes un peu partout dans ce bassin caribéen. Et par contre, on n'arrive pas justement à développer ce football, comme l'a dit Mario, pour pouvoir comment savoir si le club franciscain peut se jouer dans une nationale ou dans une nationale 2 ou un petit peu plus haut.
Tant que vous ne serez pas reconnu par la FIFA, je vois pas de perspective de développement sur le moyen terme pour le football martiniquais. C'est un peu triste,
Un département.
Alors, Frédéric Piquet avec nous, team manager de la Martinique, Mario Bocali, sélectionneur. Oui, dites-nous.
Oui, après derrière ça, sur le développement, alors il y a quelque chose aussi, c'est gagner notre légitimité à travers la sélection de la CONCACAF justement en faisant de bonnes prestations comme celle qu'on a vue contre Cuba, contre le Mexique. Ça fait à un moment donné qu'on aura peut-être des joueurs, parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de joueurs issus de Ligue 2 qui ont un très bon niveau. Mais on a des top players qui peuvent jouer essentiellement en Ligue 1 aussi, ou dans d'autres championnats, hein, comme Modeste, comme Defrel, comme Irel. Et je pense que ça crée aussi beaucoup plus de légitimité en faisant de bonnes prestations pour qu'ils viennent plus facilement, ou que les clubs les libèrent plus facilement, parce que les joueurs ont ces intentions de venir. Mais derrière, je crois qu'on a un facteur limitant, c'est le refus de certains clubs.
Ça, je suis pessimiste, hein, coach. Hein, parce que pour une sélection qui n'est pas reconnue officiellement, il n'y a pas les mêmes contraintes.
Ah, l'homme des instances parle.
Non, mais c'est pas l'homme des instances. Non, mais t'as pas du tout les mêmes contraintes que lorsque tu es une véritable sélection d'un pays.
Oui, c'est la contrainte.
Quand le joueur, il dit, moi, je suis appelé en sélection.
Concrètement,
ça discute pas beaucoup.
Les clubs peuvent refuser. Mais
parce que t'es pas reconnu par la FIFA.
Exactement, parce qu'on n'est pas reconnu par la FIFA. Maintenant, on a avancé aussi petit à petit, justement, sur cette légitimité, comme a très bien parlé Mario, mais aussi sur. On m'a souvent reproché et refusé parce que oui, mais comment on va faire si le joueur il se blesse pendant plus de 6 mois?
T'as besoin de prendre des assurances privées.
Donc voilà. Aujourd'hui, on a trouvé ces assurances là.
Mais ça coûte des sous.
Ça coûte des sous à la ligue, ça c'est normal. Mais si on veut avoir les joueurs et si on veut avoir une équipe compétitive, il faut faire l'effort.
Tu peux nous donner un ordre de grandeur du coup que ça engendrerait là pour la Gold Cup?
Ça dépend de la durée du contrat. De toute façon,
sur la Gold Cup,
franchement, je peux pas te dire, mais c'est en milliers d'euros.
Mario Bocali, une question qu'on me pose là sur Direct Studio. Comment vous vous basez pour définir comment on est martiniquais en fait? Parce que c'est vrai qu'il y a par exemple des martiniquais qui sont de famille martiniquaise née en France, de parents martiniquais qui sont peut-être très attachés à leur île parce qu'ils y vont en vacances et tout. Est-ce qu'il faut être né en Martinique? Comment vous faites?
Oui, il y a des critères d'éligibilité qui sont très simples. C'est-à-dire, comme Fred disait, livret de famille. Donc, le livret de famille, ça peut être le joueur né en Martinique ou les parents du joueur. Des fois, ça peut remonter jusqu'aux grands-parents nés en Martinique ou encore l'une des particularités. On a eu, par exemple, pour un joueur qu'on appelle Julio Denisa, qu'on a eu, des parents guadeloupéens réunionnais, mais. Julio a vécu 3 ans en Martinique. Donc, je crois que ce sont des critères d'éligibilité à un moment donné
qui font que certains joueurs peuvent jouer pour la sélection de la Martinique.
Aujourd'hui, c'est quoi, d'accord, votre avis qui bloque cette reconnaissance de la FIFA, en l'occurrence de Grèce,
c'est que t'es un département.
Oui, non, mais qu'est-ce qui motive son blocage? Est-ce que lui, il se dit pas,
si la Martinique
risque d'affaiblir l'équipe de France?
Qui motive son blocage? Il se dit, si je dis oui à la Martinique, je vais demain dire oui à la Guadeloupe, à la Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, et puis,
c'est... Donc, il n'y a plus d'équipe de France, quoi.
Non, mais
tu peux jouer en équipe de Martinique et après aller en équipe de France.
Ça, c'est l'aspect géopolitique même. C'est un département. Alors que quand tu as un territoire, comme tu l'as si bien dit, Fred, avec Tahiti, et la Nouvelle-Calédonie aussi.
La Nouvelle-Calédonie qui fait les phases de Coupe
Fédération, qui fait les phases de qualif dans la zone.
Il y a un club calédonien qui a gagné la Ligue des Champions d'Océanie cette année.
Ouais.
Donc c'est la France, ils ont participé à la Ligue des Champions d'Océanie.
Mais il y a eu une rencontre, je crois, entre Tahiti et la France dans une Coupe du Monde de jeunes, U17, quelque chose comme ça. Ouais, Marseillaise, les deux cas.
Marseillaise et Marseillaise, c'est drôle. Mario Bocali, c'est quoi les prochains rendez-vous là, du coup, de la sélection martiniquaise?
Alors, le prochain rendez-vous, tout comme l'Europe, il y a une même boîte qui a produit une compétition, une Ligue des Nations. Donc, nous, à l'issue des qualificatifs, on s'est qualifié pour la Ligue des Nations A, donc le meilleur niveau.
Bravo.
On aura deux adversaires dans notre poule de trois. Donc, on aura Trinidad, que l'on joue le 6 septembre en Martinique. Le 9 septembre, on va jouer contre Trinidad. Et on ira jouer contre le Honduras le 13 octobre.
Ah, intéressant,
en Martinique le 14 novembre. Donc voici, on est vraiment dans une poule. C'est du costaud, deux équipes qui se sont qualifiées qui font les qualificatifs Coupe du Monde. Mais je crois que c'est ça aussi la réalité pour nous. Je vous dis, on est confrontés à de grandes nations.
Bravo, deux pays qui ont participé à la Coupe du Monde il n'y a pas si longtemps, parce que Trinidad y était en 2006
en Allemagne,
si j'ai bonne mémoire. Et l'Honduras a joué contre la France au Brésil.
2014.
Il nous reste quelques secondes à peine. Moi, il y a un dernier truc, parce que moi j'avais poussé un coup de gueule là, cet hiver. Moi, je trouve ça totalement anormal qu'à partir des 32e de Coupe de France, les clubs des Dom-Tom soient obligés de venir en France quand le tirage au sort les désigne en premier. Mais ça, c'est un putain de scandale! Et vous dites rien là, vous là.
Il faut gueuler, c'est incroyable.
Pourquoi tu n'as pas pris d'ailleurs le Gary Bocali, parce qu'il a joué là, avec le Lamentin.
Attends, je veux qu'on réponde d'abord à ma question là, parce que moi j'étais le seul cet hiver.
C'est vrai.
Tout le monde me disait ils sont contents de venir en France. Ils sont pas contents.
Il y a des lettres qui ont été faites. Il y a des choses en plus. Par exemple sur le match en plus, Aiglon qui était en premier contre Orléans.
Et voilà, normalement tu devais jouer en Martinique.
Au moins en Martinique. Mais après, on a demandé même de faire ce match à Paris. Ça a été refusé par Orléans. Donc il y a plein de petites choses en fait qui ne sont pas, normales.
C'est la discrimination, excusez-moi.
On est obligé de
la fédération, c'est des questions logistiques. J'essaierai de répondre plus.
On en reparle après les
plus précisément.
Mario, merci beaucoup en tout cas, Mario Bocali.
Merci beaucoup à vous et puis merci pour
l'intérêt
pour le football martiniquais.
Ça marche, bonne soirée. Salut. Enfin, bonne journée chez vous parce que
merci,
il y a un petit décalage.
Oui, là il est
16h. Quelle chance. Salut Mario, à bientôt.
Ciao Mario.
Tiens Fred, on va en parler de cette question là dans quelques instants. On reste un petit peu si tu veux bien, juste après les infos. C'est la mi-temps entre l'Égypte et l'Afrique du Sud, toujours 0-0. Mi-temps entre l'Argentine et le Chili par ailleurs à la Copa América. Là, le score est de 2-0, toujours en faveur de l'Argentine, donc avec les deux cartons rouges. À tout de suite dans l'after, avec au programme donc un peu de Martinique, beaucoup de Griezmann et d'OM après les infos.
RMC, l'after foot.